Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Combien de temps passez-vous sur des écrans ? Vaste question, peut-être mieux vaut ne pas savoir, me direz-vous. Actuellement se tiennent les 10 jours sans écran à destination de plusieurs milliers d'enfants et adolescents. Essayez donc ou pas, car les écrans sont-ils forcément nocifs ? Voilà la question qu'on pose ce soir. Les messages d'alerte se multiplient, mais pourquoi ? Comment faire bon usage de ces outils qui font partie du quotidien de tellement de monde ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir. À mes côtés en studio, Florent Souillot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-président et co-fondateur de l'association Lève les yeux, qui promeut la déconnexion, co-auteur du livre La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre. Face à vous, Sylvie Dieu-Ozica, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pédiatre, membre du CAUSE, qui est le collectif surexposition écran, autrice du livre Les écrans, mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille. Vous nous donnerez vos bons conseils. Notre troisième invité est Servane Mouton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neurologue, coordinatrice du livre Humanité et numérique, les liaisons dangereuses. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. J'ai débuté mon introduction par une question, je vais vous la poser, Florent Souillot. Combien de temps on passe sur nos écrans en moyenne ?
Beaucoup, beaucoup trop. Alors les études varient, mais les dernières études montrent vraiment que depuis le confinement et surtout depuis une quinzaine d'années avec l'arrivée des smartphones, le temps d'écran a connu une hausse exponentielle. Donc aujourd'hui, on estime peu ou prou, il y a une étude Ipsos qui est sortie en 2011, qu'on monte déjà à près de 3 heures par jour dès 3 ans, entre 3 et 6 ans, 3 heures d'écran, parce qu'en fait, quand on dit écran, on dit la console, évidemment le smartphone en premier, mais aussi la tablette, la télé et parfois les écrans à l'école dont on va reparler. Et ça monte comme ça jusqu'aux 16-24 ans pour atteindre presque 10 heures par jour. Donc si on prend vraiment la mesure du temps d'écran, et c'est parfois compliqué, les parents pensent souvent que les enfants passent moins de temps sur les écrans, mais quand on essaye de mesurer, on se rend compte que c'est exponentiel et que c'est devenu quasiment une des premières activités éveillées aujourd'hui dans notre société pour les adultes et les enfants.
Justement, pour un adulte, c'est combien en moyenne ?
Ça redescend un peu, mais si vous prenez les ordinateurs de travail, bah l'usage professionnel, etc., vous voyez vite qu'on évite, voilà, 10 heures, plus de 10 heures par jour. Donc aujourd'hui, les écrans, ce n'est pas la même chose qu'il y a 15-20 ans avec Internet première génération. Hein, c'est vraiment essentiellement dans les grands usages du divertissement, de la consommation vidéo, des réseaux sociaux et puis ensuite des usages professionnels.
C'est beaucoup, pourquoi c'est trop ? Parce que vous avez dit c'est beaucoup trop.
Alors j'ai tout de suite dit c'est beaucoup trop, c'est vrai, parce que on n'a pas plus de temps dans la journée, parce que notre cerveau est le même qu'avant et parce que malheureusement du coup plein d'autres activités en pâtissent. C'est très visible chez les enfants, on va en reparler avec des effets délétères sur leur santé physique et mentale, mais dans les faits c'est vrai que ça provoque souvent la baisse des relations sociales, d'activités physiques, sportives, relationnelles, avec d'autres effets démocratiques, écologiques, etc. Donc ça se fait quand même au détriment d'autres choses. On ne peut pas lire en même temps qu'on envoie des messages sur WhatsApp, ce n'est pas la même lecture.
Et ça rejoint ce qui figure sur votre site internet concernant votre association Lève les yeux, la société, écrivez-vous, pour présenter votre association, est de plus en plus dépendante des écrans, ce qui entraîne de graves effets sur la santé, l'éducation, le lien humain, l'environnement et les démocraties. L'œil de la neurologue Servane Mouton, quels sont les dangers ? En quoi est-ce que les écrans sont néfastes ? Pourquoi est-ce qu'on passe, comme a dit Florent Souillot, beaucoup trop de temps sur ces écrans ?
C'est une question qui mérite plein de
débats.
Il y a beaucoup de sujets. Monsieur Souillot en a déjà évoqué plusieurs. C'est vrai que selon les âges, les effets ne seront peut-être pas les mêmes. Chez les enfants, il y a toute la question du neurodéveloppement, du développement affectif et émotionnel. Mais l'adulte est aussi concerné par le côté cognitif avec l'attention également. Après, peut-être qu'on redéveloppera, mais donc il n'est pas exempt d'impact en fait sur le fonctionnement de son cerveau. Et puis après, il y a des choses qui sont plus de l'ordre, à mon avis, des enjeux de santé publique et qui sont vraiment à chaque âge, avec malgré tout, à mon avis, une vulnérabilité plus grande des plus jeunes, les moins de 18 ans, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ils ont un organisme qui est en développement, en construction, et donc ils sont plus vulnérables physiologiquement. Et puis ensuite, parce que les habitudes qui sont prises dans l'enfance ont de fortes chances ou de forts risques de perdurer à l'âge adulte. Donc il est d'autant plus important qu'il ait une bonne hygiène de vie, et en l'occurrence une bonne hygiène numérique. Or, un usage excessif ou inapproprié des écrans favorise des troubles de sommeil. Et des troubles du sommeil, d'altérations qualitatives et quantitatives favorisent une myriade de problèmes de santé, que ça va des troubles métaboliques et maladies cardiovasculaires à certains cancers, aux maladies neurodégénératives, aux troubles des apprentissages aussi, parce qu'il y a des difficultés attentionnelles qui vont se manifester dans le cadre scolaire. Et puis la sédentarité, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, c'est-à-dire qu'on peut être extrêmement sportif, faire une heure de course à pied tous les jours et être aussi extrêmement sédentaire si on passe plus de deux heures par jour assis, par exemple, pour un enfant ou un ado. Donc les enfants aujourd'hui, les moins de 18 ans aujourd'hui, sont très sédentaires. C'est une estimation avant Covid, donc clairement c'est une sous-estimation, mais il y avait des rapports de l'ANSES qui estimaient que presque 50% de la population des moins de 18 ans était trop sédentaire, par exemple. Et ça, à moyen et long terme, c'est un vrai enjeu de santé publique.
Ouais. Alors, je vais citer un de vos confrères, le neuroscientifique Grégoire Borst, qui a déclaré « Si on analyse les données à l'échelle collective, on ne trouve aucune relation entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la santé mentale des adolescents ». Fin de citation. En gros, il explique que, oui, les réseaux sociaux peuvent faire du mal, mais à ceux qui ont déjà des problèmes, par exemple des problèmes d'estime de soi.
C'est pour moi, je ne sais pas.
Oui, parce que vous êtes neurologue, il est neuroscientifique, ça m'intéresse.
Alors, sur le bien-être social, il y a des études qui sont discordantes, mais comme souvent en recherche, finalement, il y a des études qui montrent une corrélation négative et puis d'autres qui montrent une corrélation positive. Bon, voilà, enfin, ou neutre. Donc on peut discuter de ça. Après, il y a quand même des choses qui ressortent, qui sont liées en fait au fonctionnement même des réseaux sociaux. Et une des bases des problèmes de toutes ces plateformes, réseaux sociaux, jeux vidéo, Monsieur Souillot est parfaitement au fait de tout ça. C'est la captation de l'attention. C'est que leur business repose sur la captation de l'attention, nous maintenir en ligne le plus longtemps, le plus souvent possible, etc. Et pour y arriver, il y a plein de moyens. Un d'entre eux est, grâce aux algorithmes, de nous proposer des contenus qui nous plaisent ou qui correspondent à nos attentes, à nos affinités, etc. Ce qui peut créer un cercle vicieux lorsque c'est une adolescente, par exemple, qui va regarder un jour une vidéo avec des scarifications ou des incitations à l'anorexie ou à des régimes alimentaires farfelus, etc. Donc ça peut... probablement même chez une adolescente pas fragile, mais encore plus, c'est vrai, chez une adolescente fragile, mais en même temps, l'adolescence est une période particulièrement sensible, favoriser des comportements qui peut-être n'auraient pas eu lieu sans les réseaux sociaux. Peut-être, j'en sais rien. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que les plus vulnérables au niveau émotionnel, ceux qui sont les moins bien dans leur basket, en tout cas, vont être aussi les plus vulnérables sur les réseaux sociaux.
Après, c'est ce que disait le neuroscientifique que j'ai cité.
Oui, mais ce qui n'exempte pas nous-mêmes en tant qu'adultes ou les institutions publiques et nos dirigeants du devoir de protection des mineurs, y compris des plus vulnérables, face à ces plateformes.
Sylvie Dieu-Ozica, vous qui êtes pédiatre, vous connaissez bien le sujet. D'ailleurs, pour illustrer ce que vient de dire Servane Mouton, il y a un terme qui est utilisé, c'est le risque d'autisme cathodique concernant les enfants. Parce qu'on dit que le trouble l'interaction sociale, c'est le seul repère. C'est un repère très important pour les enfants, pour les adolescents. Mais si les écrans sont utilisés en complément des interactions sociales, en quoi ils sont néfastes ?
Le problème, c'est que je suis pédiatre et donc je vois des enfants de 0-16 ans et donc les parents qui les accompagnent, bien sûr. Le problème, c'est qu'on parle de l'écran, mais on ne parle pas de tout ce qu'il y a dessous et ce qu'a évoqué Mme Mouton, c'est-à-dire la captologie qui est sous-jacente à ça et les algorithmes dont les enfants sont victimes.
Elle l'a soulevé.
Oui, mais je le redis parce qu'on dit souvent les écrans, c'est un problème parce que c'est mal utilisé. Mais en fait, l'écran est un problème en soi. Il est nocif en soi, la façon dont il est utilisé actuellement, puisqu'on n'explique pas du tout aux parents les risques qu'ils encourent quand ils utilisent cet écran et quand ils le donnent à leur enfant.
Ça pose la question de la régulation de l'Internet et de l'accompagnement, évidemment. L'accompagnement des enfants et des adolescents sur Internet.
L'accompagnement, mais le fait que ce produit est hyper addictif d'emblée. C'est-à-dire que moi, j'ai une consultation sur exposition écran à Jean Verdier depuis 2019 et je vois des enfants âgés de 2 à 4 ans qui viennent sans langage et qui regardent les écrans. Au-delà, on disait 2021, les temps de 0 à 2 ans sont de 3 heures par jour, ce qui est absolument énorme. 0 à 2 ans, je précise. Et des 3 à 6 ans, on est à peu près à 4 heures par jour en moyenne si on cumule tous les écrans. C'est fou, mais c'est une moyenne, n'oubliez pas. Ça veut dire que parfois, c'est 5 minutes dans une famille, c'est 0 dans une autre famille bien informée, c'est 30 minutes dans une autre famille accompagnée avec un discours sur l'écran qui ne posera jamais problème. Ou si on est sur Skype, ou si on regarde un dessin animé avec son enfant en discutant, ça ne posera jamais de problème. Le problème, c'est qu'on donne cet écran et que comme il est addictif par définition, puisqu'il y a tout un système de captologie derrière tout ça, dont nous-mêmes, adultes, nous sommes victimes, mais nos enfants sont victimes de cela et on ne protège pas et on n'explique pas ça aux parents quand on leur donne dans les mains. Si vous regardez YouTube Kids ou n'importe quelle plateforme, ça ne s'arrête jamais. Donc ce principe de ne jamais s'arrêter, de donner que ce que l'enfant veut, fait que du coup, il est pris dans le piège, et ça, le parent lui-même.
Ça pose la question de base, qui est qu'est-ce qu'on consulte sur les écrans? Alors nous adultes, enfants, adolescents, le psychiatre Serge Tisseron, également membre du Conseil national du numérique, disait « S'il n'y a pas de bons écrans avant 3 ans, c'est différent entre 3 et 6 ans, mais il est vrai que tout cela implique d'envisager les écrans autrement que comme des produits potentiellement toxiques. » Et on parle d'abord de l'aspect néfaste en premier, hein. Vous vous entendez tous les trois. D'abord, c'est l'aspect toxique et néfaste de l'Internet que vous évoquez, et de prendre en compte leur contenu et leur accompagnement, dit le psychiatre Serge Tisseron.
Bien sûr, mais l'accompagnement, c'est difficile puisqu'on oublie aussi un point important, c'est que le parent lui-même est sur son écran. Il est sur les réseaux sociaux, sur les séries. Donc, il y a tout ce problème de technoférence dont on pourrait dire un mot qui est très important puisqu'il n'y a plus de relation parent-enfant puisque le parent est lui-même captif. Et l'enfant se retrouve capté complètement par ce système également. Et le temps file et il se fait complètement avoir. Et un autre point qu'on dit pas assez souvent, on dit souvent que certaines plateformes, applications sont pédagogiques. Ce mot qu'on entend et que les parents me redisent en pensant avoir bien fait, il n'y a rien de pédagogique à l'heure actuelle sur toutes les plateformes, sur toutes les applications qui existent actuellement. La seule pour laquelle il y a eu un vrai travail, c'est Sesame Street dans les années 60 aux États-Unis. Depuis, il n'y a rien. On vous dit qu'on va apprendre l'anglais ou qu'on va apprendre des choses. C'est faux. On n'apprend strictement rien. On n'apprend qu'avec l'humain et l'enfant n'apprend qu'avec le père adulte qui est à côté et qui va faire un vrai échange.
Florent Souillot, enfin, en gros, tout est à jeter sur les écrans pour les enfants, pour les adolescents?
Non. Tout est à jeter. Bon, la question est un peu radicale. Non, mais la réalité des usages qu'on observe sur le terrain dans notre association, par les ateliers qu'on fait dans les écoles, les collèges, auprès des parents, etc., c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les écrans dans leur consommation sont nocifs pour la santé. Parce qu'ils sont mal utilisés, parce qu'ils sont addictifs. Donc ça s'accompagne à la fois d'une nécessaire prévention.
Mais ils sont addictifs parce qu'ils sont mal utilisés.
Non, ils sont addictifs parce qu'ils sont conçus pour être addictifs.
Via les algorithmes, mais encore une fois, on peut proposer, je sais pas, je vais élargir... au-delà du débat sur les enfants ou les adolescents. Avec Internet, aujourd'hui, on peut faire, avec un smartphone, on peut faire du sport, par exemple, on peut faire du fitness dans son salon, on peut lire un article de philosophie. Je veux dire, on peut faire des choses intelligentes et pas nocives.
Non, mais ça, c'est le rêve d'Internet. Et de ce point de vue-là, c'est un outil extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a le savoir numérisé à portée de clic.
Oui.
La réalité des usages, la façon dont les gens vivent Internet aujourd'hui, n'est pas celle-là,
depuis... On a des données là-dessus?
Oui, bien sûr, les données sont publiques. D'ailleurs, les fabricants d'applications ne cachent pas qu'ils privilégient les profits à la santé des utilisateurs, que ce soit Facebook, Meta, TikTok, etc. Ils le disent, ils l'assument. Des lanceurs d'alerte l'ont fait depuis plusieurs années aux États-Unis. Et on voit vraiment la corrélation entre l'usage de ces réseaux et la détresse psychologique, les problèmes physiques, jusqu'à même les questions vraiment de détresse mentale des adolescents et des adolescentes. Donc ça a été montré. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent ici. C'est un phénomène mondial qui réellement a recouvert nos sociétés, et notre société est assez malade de son rapport aux écrans, en tout cas ne peut plus s'en passer aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il faut déconnecter ou est-ce qu'il faut réguler l'Internet pour justement un petit peu arranger ces algorithmes?
On peut faire les deux, c'est-à-dire que nous on porte un discours de régulation, de prévention forte et de déconnexion avec la préservation de moments de déconnexion, et notamment pour l'école, de préserver l'école de la marchandisation du monde, parce qu'on parle de ça. Là. L'écran aujourd'hui est un vecteur de marchandisation de nos existences avec des applications privées, sur des régimes, des modèles publicitaires qui font de nous des produits. Donc après, la question n'est pas de se réjouir ou pas si les enfants veulent devenir influenceurs ou si on est tous transformés en hommes sandwich sur un écran. La question, c'est que veut-on de notre école? Est-ce qu'on veut que ce soit un lieu préservé du monde marchand qui éduque avec des profs, des livres scolaires?
Les livres scolaires, s'ils sont sur Internet, apprendre à lire, par exemple,
c'est
via Internet.
C'est pas la même chose que sur un livre papier.
Mais est-ce que c'est positif? D'apprendre à lire par Internet, par exemple?
Alors, on apprend à lire.
Est-ce que ça peut être l'apprentissage de demain? Pourquoi?
Non, parce qu'en réalité, quand vous apprenez sur un livre, vous mémorisez beaucoup mieux. Okay, vous êtes acteur de votre lecture. La lecture, le livre papier, aujourd'hui, est un formidable outil de libération de notre attention. La captologie, c'est ça, c'est la captation, l'emprisonnement de notre attention. Vous le voyez tous les jours dans les transports en commun, dans les espaces publics, etc. Les gens ont les yeux fixés, scotchés. Ils sont atones, ils sont un peu comme endormis. C'est comme un anesthésiant qu'on prendrait à très haute dose, dont on sous-estime les effets néfastes. Un livre, c'est l'inverse. Un livre, vous faites ce que vous voulez, vous pensez à autre chose, vous tournez les pages, vous ne le lisez pas. Bref, vous apprenez comme ça. Et on s'est rendu compte que le langage passait par ça, que la mémorisation, que la pédagogie passait par ça. Ce n'est pas un hasard si les concepteurs des plateformes mettent leurs enfants dans des écoles sans écran. Si vous allez dans des universités de prestige en France et ailleurs, il n'y a pas d'écran. Donc ça veut dire qu'on apprend moins bien avec les écrans. Et aujourd'hui, les écrans, malheureusement, aggravent les inégalités qui sont celles de la société dans son ensemble, alors qu'on aimerait au contraire qu'elles viennent les combler.
Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, je vais évoquer cette récente initiative du gouvernement suédois qui a sorti les gros moyens, plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire revenir les manuels scolaires dans les écoles. Et le ministre suédois de l'école affirme qu'à cause des écrans, les enfants ont perdu l'habitude de lire. Il y a Servane Mouton, neurologue, qui souhaite interagir. Mais d'abord, Sylvie Diozica.
Oui, moi, je voudrais vraiment insister sur le tout petit, parce que le 0-3 ans, il est vraiment victime d'une situation grave dont on n'a pas pris du tout conscience réellement. On se retrouve avec un enfant qui est sur YouTube Kids, qui va se retrouver à regarder des camions parce qu'il aime les camions et qu'on va lui en redonner autant qu'il le veut. Et ça ne s'arrête jamais. Un enfant est vulnérable, il est incapable, et encore plus à 18 mois, 2 ans, de faire, d'arrêter et de se retrouver en situation d'apprentissage devant ce genre de choses. Il a peu de temps pour apprendre à parler, il a peu de temps pour voir ce qui se passe dans le monde en troisième dimension, ainsi de suite. Et tout ce temps perdu, 3 heures en moyenne. Il n'y a que 10% des Français actuellement qui respectent les recommandations de pas d'écran avant 3 ans. Moi, je dis pas d'écran avant que l'enfant sache bien parler. Et il y a une autre notion importante, c'est celle des parents. Je répète, la technoférence. Les parents sont à côté de leur enfant, ils regardent leur écran, ils ne répondent pas de façon adaptée à leur bébé, à l'enfant plus grand. Et ça, je peux vous dire qu'au quotidien, ça entraîne des impacts absolument majeurs. Moi, je vois des troubles des interactions, parliez de troubles du spectre autistique, on est dans ça. On a des troubles de l'attachement précoce et on a évidemment des retards de langage. Les enfants, ils parlent le YouTube-lish. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est reproduire ce qu'il entend.
Absolument, parce que la seule chose qu'il a entendue, moi, mes consultations
sans
à Jean Verdier,
il
fait le perroquet et les parents sont très contents qu'il répète l'alphabet alors qu'il ne sait pas dire papa, maman. Donc on est vraiment devant une situation de santé publique grave, avec une création d'handicap chez le tout petit qui pourrait être évité. Je dis bien d'handicap, je pèse mes mots.
Les emplois sont... les emplois. les écrans sont-ils forcément nocifs? La question qu'on pose ce soir, oui, pour les plus jeunes, vous nous dites, et effectivement, l'Organisation mondiale de la santé recommande pas d'écran avant 2 ans. Mais Servane Mouton, vous qui êtes neurologue, la question ne se pose pas de la même manière pour les adultes?
Oui, je vais revenir un peu sur les enfants, je vais parler des adultes aussi, mais ça me taquine un peu trop de trop près l'histoire des barrières d'âge qui ne reposent plus aujourd'hui sur les études scientifiques qui sont sorties au cours des dernières années. Parce que ce que vous avez dit, l'OMS recommande pas d'écran avant 2 ans. Ce qu'elle dit après, c'est entre 2 et 5 ans, moins d'une heure, mais moins c'est mieux. Pourquoi elle dit ça? Probablement aussi parce qu'il y a des études qui sont sorties et qui ont montré que chez les enfants de 2 à 5 ans, l'exposition aux écrans, qui n'était pas forcément importante, ça pouvait être une demi-heure par jour, dès une demi-heure par jour de télévision, les performances cognitives aux tests successifs, c'était des études sur la durée, des études longitudinales, donc les performances cognitives de ces enfants étaient moins bonnes que celles qui étaient attendues, si on suivait leur courbe. Donc en réalité, si on se fie à ces études-là, il y en a deux qui sont congruentes, une allemande et une canadienne. On dirait pas d'écran avant 5 ans. Et d'ailleurs, quand l'OMS dit pas entre moins d'une heure et moins, c'est mieux. Moi, si je suis parent, je veux le mieux pour mon enfant. Donc, il n'y a pas de seuil, je fais rien. Et ensuite, jusqu'à 7 ans, il y a quand même l'enjeu majeur de l'apprentissage du langage écrit qui va être le socle de la richesse, de l'enrichissement de son langage dans les années qui vont suivre. Et ceci va déterminer ses performances académiques.
Mais ça, on a compris, on vous a entendu. On a entendu Sylvie Diozica, pédiatre, concernant les dangers, la nocivité des écrans pour les enfants et les adolescents.
Oui, jusqu'à 7 ans, c'est pas de 3 à 6 ans, on accompagne en réalité. C'est pas d'écran parce que ça perturbe leurs apprentissages et ça va compromettre leurs apprentissages pour toute la vie, y compris sur le domaine attentionnel, y compris sur le langage et y compris sur les performances académiques. Et donc c'est leur vie qui est en construction, qui est compromise quand on les expose aux écrans pendant cette tranche d'âge.
Et j'ai lu que le cerveau mettait à environ 25 ans à totalement se modeler.
Il arrive à maturation à 25 ans et les vers qui arrivent à maturation en dernier sont les vers qui nous permettent de contrôler nos impulsions et en gros tout ce qu'on appelle la métacognition, donc les interactions sociales dans toute leur richesse, la relation avec l'environnement, etc. Donc ça veut dire qu'on va être que ça va être aussi en relation avec l'environnement, tout ça continue à se mettre en place. Donc les adolescents sont aussi très à protéger encore par rapport à ça, par rapport à leur capacité attentionnelle notamment. Et puis même les adultes, il y a des études qui montrent que la présence même du smartphone à côté de nous, même éteint ou en mode silencieux, perturbe nos capacités attentionnelles. Et puis aussi parce que c'est aujourd'hui par les écrans qu'arrivent les troubles du sommeil le plus souvent. Bah, c'est la cause principale des troubles du sommeil chez l'adulte, c'est l'usage inapproprié des écrans, en particulier le soir, au moment du coucher ou pendant la nuit, et que ça va perturber les capacités attentionnelles et nos performances du coup en termes de concentration le lendemain, etc. Mmh. Donc on n'est pas épargné en réalité.
Et comment faire un bon usage alors des écrans?
Avoir une hygiène numérique, c'est compliqué. Il faut savoir, je pense, pour nous comme pour nos enfants, mais à mon avis, travailler avec un téléphone portable qui nous balance des notifications toutes les quelques minutes nous rend moins efficace, mais c'est une évidence. Mais pareil, si c'est sur l'ordi, etc. Et puis, il y a quelque chose qui ne relève pas que de notre responsabilité, qui est la responsabilité des pouvoirs publics de réguler l'économie de l'attention. Il n'est pas acceptable que des sociétés privées s'enrichissent de façon colossale au détriment de notre santé globale à tout âge. Mmh. Et là, il y a vraiment des enjeux de régulation législative. Mmh.
Florent Souillot, vous qui êtes co-président, co-fondateur de cette association Lève les yeux, qui promeut la déconnexion. Vous reconnaissez que le smartphone, la tablette, les écrans peuvent être positifs, et comment en faire un bon usage? La question que j'ai posée à la neurologue, je vous la pose à vous en tant que président d'association.
Pour moi, ce n'est pas une question d'usage, en fait. Pour moi, c'est une question de politique. C'est-à-dire qu'on peut débattre 107 ans de l'usage qu'on en fait, on sera toujours moins fort que des entreprises dont le but ultime est de nous faire passer le plus de temps possible sur ces écrans. Ça veut dire que, et c'est un peu pour se rassurer qu'on parle d'usage, on se dit c'est ce qu'on en fait, c'est nous-mêmes, c'est notre responsabilité en tant que parents ou adultes. En vérité, c'est des questions politiques, ces entreprises poursuivent un but politique, assumé, qui n'est pas celui de la démocratie, qui n'est pas celui d'une société telle qu'on la connaît nous, avec des corps intermédiaires, qui n'est pas celui d'une société soutenable du point de vue écologique. Encore une fois, on n'a pas parlé là du problème environnemental.
Mais si on fait revenir les livres, par exemple, on parlait des livres scolaires. Je parlais de la Suède qui débourse plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire revenir les manuels scolaires dans les écoles. Objectif, un livre par élève par matière. Donc déjà, il faut le porter. Et puis la question écologique.
Alors la question écologique.
Dans un monde où le progrès technologique est important.
Je pense que si vous comparez le coût écologique d'un livre imprimé, édité dans une forêt avec du papier recyclé par rapport à celui d'un smartphone, vous tomberez vite de votre chaise en vous disant un smartphone, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus polluant. Aujourd'hui, le numérique dans son ensemble pollue plus que le transport aérien. La difficulté qu'on a à saisir, c'est que le numérique, c'est le smartphone qu'on a dans la poche. On ne se doute pas tout ce qu'il faut derrière en termes de ressources pour le fabriquer, en termes d'eau pour refroidir les data centers qui permettent l'échange des données. Aujourd'hui, on parle de petites machines surpuissantes qui fonctionnent à la vidéo avec des hautes fréquences. Donc, tout ça a un coût écologique exorbitant. Mmh. Donc ça, c'est un coût dont on est nous-mêmes responsables. Ce n'est pas nous qui allons régler ça. C'est comme le tri. Je peux aller mettre les choses dans la poubelle jaune. Ce n'est pas pour autant que la question écologique va se résoudre. C'est une question politique qu'il faut adresser de façon politique. Et c'est pour ça que l'école est un des sujets politiques forts, mais pas le seul. Il faut sortir un peu cette question des usages, montrer que le numérique et la technologie dans son ensemble n'est pas neutre, nécessite un débat politique, démocratique. On n'a pas trop l'habitude en France, parce que ça fait 40 ans qu'on baigne dans un optimisme, on va dire, une sorte un peu peut-être de naïveté, mais en tout cas, on se dit que c'est le fil du progrès. Ce progrès, il faut quand même l'interroger. On voit tous les effets que ça a. C'est pas normal qu'on n'en débatte pas. C'est pas normal que, quand il y a une convention sur le climat qui pose un moratoire sur la 5G, on met ça sous le tapis du point de vue politique. C'est pas normal que la question du numérique éducatif ne soit pas posée, ni la question de la protection de notre attention par les plateformes.
Il n'y a eu aucun débat sur ça.
Sylvie Diozica.
Et à l'école, justement, on a fourni des tablettes sans même se poser la question de leur efficacité. Il n'y a eu aucune étude antérieure avant de le déposer. Moi, je dis souvent aux parents, c'est comme si on donnait une voiture à son ado sans avoir passé le code de la route et sans avoir le permis de conduire. Les professeurs se sont retrouvés sans explication et sans mode d'emploi également pour savoir quels étaient les risques quand l'enfant se retrouvait avec la connexion au domicile, ainsi de suite. Les parents non plus, et l'enfant encore moins, puisqu'il n'y a pas d'éducation numérique correcte. Donc en fait, on a donné un objet extrêmement addictif sans avoir donné le le mode d'emploi au départ. Mmh. Et dans les familles, on se retrouve dans la même situation.
Servane Mouton a dit, c'est intéressant, que oui, l'OMS dit pas d'écran avant 2 ans et maximum 1 heure par jour entre 2 et 5 ans, mais elle a ajouté, si c'est moins qu'une heure par jour, c'est mieux. Ça c'est me rappelle mieux. Une campagne contre l'alcool en disant... pas plus d'un verre de vin et si possible pas tous les jours.
Oui.
Vous avez, Sylvie Diozica, signé une tribune dans Le Monde au début du mois pour appeler à une loi, et justement une loi à l'image de ce qui est fait pour le tabac et l'alcool concernant les écrans.
Oui, je pense que dans 10 ans, c'est ce qu'on dira, qu'on était dans la même histoire avec tout l'argent qu'il y a autour de ça, avec l'alcool, avec le tabac, qu'on est maintenant avec le numérique. Bien sûr qu'il y a vraiment... Enfin, le problème est vraiment important et il est important donc de légiférer parce qu'effectivement, la seule façon de pouvoir faire passer un peu des messages clairs et vraiment protéger l'enfant qui n'est pas du tout protégé, les familles qui ne le sont pas non plus parce que pas assez informées, elles me disent ça tout le temps, on ne m'a pas dit, on ne m'avait pas dit. On m'a dit que c'était pédagogique, on m'a dit qu'il y avait des études, comme vous l'avez cité tout à l'heure, qui peut-être ne posaient pas tant de problèmes. On n'a pas le temps, mais il y a un nombre d'études absolument énorme. On est à 5000 à 6000 études en moyenne si vous tapez Children et Screen sur PubMed, c'est publication médicale. Et certains chercheurs disent qu'il y a peu d'études ou qu'elles vont plutôt des fois dans des sens positifs. Je n'ai pas repris tout à l'heure, mais je tiens à le dire. Dans la majorité des cas, les études montrent qu'il y a soit un principe de précaution, soit des études qui sont négatives. Et alors encore plus chez l'enfant, chez le tout petit, c'est encore plus. Mais chez les adolescents, on pourrait le reprendre également. Donc oui, il faudrait légiférer, et c'est ce qui est en cours. Malheureusement, je trouve que ça ne va pas assez vite et qu'il y a encore une génération d'enfants avec le Covid qui est encore plus exposée qu'il ne l'était avant le Covid, parce qu'on n'est pas revenu au temps d'avant. Et donc, la loi proposée qui a été votée à l'Assemblée au mois de mars par Caroline Janvier est actuellement au Sénat.
Oui.
Et j'aimerais tellement qu'elle soit peu modifiée, mais on attend. Et le temps législatif est long, donc dans combien de temps on va dire qu'il va falloir former tous les professionnels de santé? Sachez que les professionnels de santé actuellement en France ne savent pas quelles sont les conséquences de l'écran. Donc, ne peuvent pas donner aussi d'informations claires parce qu'ils ne sont pas formés aux parents. Et qu'on va aussi informer les parents dès la grossesse. Très important. Anticiper. Vous demandiez comment gérer les écrans, le plus tôt possible et savoir quels sont les avantages. Il y en a plein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les inconvénients, et notamment quand un bébé arrive.
Alors effectivement, il y a cette proposition sur la prévention de la surexposition des jeunes enfants aux écrans. Sylvie Diozica, est-ce que comparer les écrans malgré tout au tabac et à l'alcool, c'est ignorer les bienfaits des écrans? Parce que c'est compliqué de valoriser les bienfaits du tabac et de l'alcool.
Bon, boire un verre de vin, c'est pas désagréable.
Est-ce qu'on peut les mettre sur une même ligne?
Quasiment. Moi, je le trouve parce qu'au moins, ça marque. Et on est dans une situation aussi grave que celle-là. Je vois des enfants cassés, mais vraiment littéralement cassés, parce qu'ils ont commencé à regarder les écrans dès l'âge de 6 mois, 9 mois, et qu'ils ne font que ça parce que le système est captif. Ils sont captifs de ce problème et ne peuvent pas apprendre.
Servane Mouton.
Oui. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur le tabac, parce que aujourd'hui, on est en 2023, et dire que le tabac pourrait être bon pour la santé... on passerait tout de suite pour un ahuri. Mais si on revient à 40 ans en arrière, avant les lois Evin, les grands procès, etc., on disait que le tabac, c'était pas si mauvais que ça, même que ça pouvait être bon, c'était un stimulant pour les performances cognitives, ça pouvait faire maigrir. Enfin, il y a eu une stratégie du doute et une désinformation orchestrée par l'industrie qui a très très bien fonctionné pendant quasiment 100 ans. Voilà. Donc c'est l'alcool, c'est pareil, qui était encore servi lors des écoles dans les années 50, jusqu'à arriver à zéro maintenant. Mais pendant la grossesse, il y a encore quelques années, on disait que c'était possible un petit peu, mais pas trop. Puis maintenant, c'est zéro. Donc en fait, sur les seuils de produits avec un potentiel nocif pour la santé, les seuils ont été abaissés petit à petit, avec toujours les mêmes histoires de lobbying extrêmement intense et extrêmement puissant, qui a retardé la législation, la limitation des seuils, etc. Et pour les écrans, ça ressemble quand même un petit peu. Il est tentant, ce parallèle, et il est quand même assez... Je le trouve assez vrai. On est devant des produits addictifs ou addictifs life qui sont sources de conséquences délétères pour la santé, physique, mental et émotionnel à tout âge.
Avec une puissance économique très importante.
Énorme.
Ouais.
Ouais.
Merci beaucoup. Alors, vous parlez presque tous les trois là. En même temps, ça montre que le débat est vif, mais il prend fin. Et je vais retenir cette phrase que vous avez dit, Servane Mouton. Il faut réguler l'économie de l'attention. Et ça passe notamment par cette éducation numérique qu'on a soulevée dans ce débat. Merci beaucoup à vous trois. Servane Mouton, neurologue, coordinatrice du livre Humanité et numérique, les liaisons dangereuses. Sylvie Diozica, pédiatre, membre du CAUSE, le collectif Surexposition Écran, autrice du livre Les écrans, mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille. Et Florence Houillot, merci à vous. vous. Co-président, co-fondateur de l'association Lève les yeux, qui promeut la déconnexion, co-auteur du livre La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre. Florence Ponce, Arnaud Dassaoua à la préparation de ce débat, Tiffany Menta à sa réalisation.